enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais ce matin continuer le thème que nous avions commencé ensemble il y a quelques semaines de cela, et ce sera la troisième partie, la guérison divine. Je parle de ce sujet avec beaucoup de compassion, en particulier pour ceux qui peut-être, eh bien, après avoir prié, ont quand même vu l'un des leurs partir dans la gloire. Cependant, cela n'enlève rien au fait que Jésus guérit aujourd'hui encore. Il n'a pas changé. Nous avons vu ensemble en préambule que foi dans la guérison divine et science ne s'opposent pas. Nous avons vu également que nous avons une responsabilité personnelle dans la santé. Nous avons vu ensemble la fois dernière la genèse même, eh bien, de la maladie. Et si vous n'étiez pas là et vous désirez avoir ces messages, ils sont disponibles. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de la souveraineté de Dieu dans le cadre de la guérison divine. La souveraineté de Dieu dans le cadre de la guérison divine. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois à la guérison divine, j'expérimente des guérisons divines, je suis moi-même le résultat d'une guérison divine, puisque ma mère, si elle n'avait pas été guérie, je ne serais pas là aujourd'hui. Dernièrement encore, des frères et des sœurs en particulier, eh bien, nous appelaient ici dans la garderie parce que se trouvait un bébé qui hurlait. Alors, je suis arrivé, on m'a demandé de prier. Il y avait également ma sœur De Robert qui est médecin, qui est arrivée. Tiens, tu pourrais te lever comme ça, on te voit. Et puis, is the skin from the baby here heute Morgen? Claudia, steh mal auf. Là-bas, il y a la maman du bébé. Alors, lorsque je suis arrivé, on m'a appelé surtout parce que la sœur est allemande, le bébé hurlait. En fait, il avait une grosseur ici à l'aine et c'était, docteur, c'était quoi? C'était une hernie inguinale. Donc le pauvre gamin, je vous assure, il pleurait. Alors, moi j'ai dit, Seigneur, moi je fais ce que je sais faire, prier pour lui. C'est tout. Ensuite, merci ma sœur et merci d'ailleurs à tout le personnel médical ici présent qui nous aide dans des cas comme ça. Notre sœur qui est médecin est venue, elle l'a examiné, elle a tout de suite constaté l'hernie. Elle me dit, je vais essayer de la lui réduire. Alors, elle a fait ce qu'elle devait faire. Moi, j'ai observé, j'ai regardé pour que si un jour ça arrivait à Dominique, je puisse lui refaire la même chose. Mais comme il fallait porter le bébé et le mettre dans l'eau, je me suis dit, avec elle, ça va être difficile, hein. Et elle a essayé de tout cœur de réduire cette hernie. Bien sûr, la maman elle-même était très inquiète. Et puis, après avoir essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, donc notre sœur qui est médecin leur a dit d'aller tout de suite aux urgences parce que l'enfant devait être opéré encore normalement la même nuit. Donc, ils sont partis, l'enfant pleurait, on avait prié, Christian encore une fois prié pendant qu'il partait. Puis ils sont arrivés à l'hôpital à Fribourg. À l'entrée, ils disent c'est pour une hernie. Et puis la dame dit, il est drôlement paisible votre bébé pour une hernie. Et puis ils arrivent chez le médecin. Le médecin l'ausculte, le réausculte, l'ausculte encore. Ils n'ont plus rien trouvé du tout. Ils n'ont plus rien trouvé du tout. Alors, Là où c'est étrange, c'est entre-temps, il y avait comme une récidive. La sœur Svetlana m'appelle au téléphone, on prie ensemble au téléphone, ils arrivent nouveau aux urgences, plus rien. Vous savez, le Seigneur est fidèle, mais le diable va essayer de vous voler ce que vous avez reçu. Et ce matin, la maman est là. Is there Christian here, Claudia? Nein, it's good. Is there here? Is alles okay? Le petit est là ce matin et Dieu guérit, ça c'est sûr. Maintenant, eh bien, je crois que nous ne pouvons pas parler de la guérison divine sans parler de la souveraineté de Dieu. Et j'aimerais ce matin que nous puissions prendre du temps pour cela, ensemble, avec nos amis téléspectateurs que nous saluons, vous encourageons à continuer à regarder les émissions. Soyez bénis. Je voudrais en particulier, eh bien, saluer la communauté française de Londres qui régulièrement nous téléphone. On nous téléphone de partout, mais vous, les londoniens francophones, eh bien, vous nous téléphonez fidèlement. Alors, soyez bénis. Bien. La parole de Dieu est claire. Nous devons prier pour les malades. Cependant, nous ne pouvons pas éliminer le fait que, en finalité, Dieu reste souverain. Si nous oublions dans le cadre de la guérison divine la notion de souveraineté de Dieu, nous risquons de nous enfermer dans une logique dans laquelle le malade doit toujours et absolument et obligatoirement être guéri. Cependant, il n'en est pas ainsi et la Bible ne dit pas cela. Dernièrement, je tombais sur un petit texte dans la parole pour aujourd'hui que je voudrais vous lire. Il s'appuie sur le verset du 1 Pierre 4:12 « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Et voilà ce qu'il dit. « Nous vivons à une époque où tout doit s'obtenir vite et sans délai. Même dans nos églises, nous sommes influencés par cette attitude, alors que nous devrions influencer le monde, manipuler les Écritures et arranger la vérité afin d'inspirer ou de plaire aux gens est condamnable. » Dieu n'est pas le Père Noël ou notre livreur. Ce n'est pas à lui de nous donner tout ce que nous voulons quand nous le voulons. Dieu a promis de nous bénir abondamment, mais quand nous mettons seulement l'accent sur les bénédictions en sous-entendu, nous questionnons la foi de ceux qui n'ont pas reçu autant que nous, et c'est une faute grave. Nous pouvons citer la parole de Dieu et ses promesses autant que nous voudrons. Cela ne nous fera pas échapper aux épreuves, qui d'ailleurs a prétendu que nous ne serions protégés de toutes les épreuves. Pas Dieu en tout cas. Sa parole dit « Ne soyez pas étonnés si vous vous trouvez dans le feu de l'épreuve. » Nous aimons la rapidité des micro-ondes, mais Dieu préfère la lenteur des pot-au-feu. Ça c'est l'auteur, hein. La maturité spirituelle s'acquiert dans la fournaise de l'affliction. Vous ne connaîtrez jamais l'intensité de votre foi tant qu'elle n'aura pas été mise à l'épreuve. Bien-aimés, ce matin, eh bien, le fait de parler de la souveraineté de Dieu n'enlève rien à ce que la parole de Dieu proclame. Nous disons toujours, Seigneur, sois le roi de ma vie, sois le roi de mon cœur, règne sur ma vie, règne sur mon cœur. Lorsque dans les pays où on a encore la condamnation à mort, arrive le temps où le président peut amnistier le condamné, il est souverain dans sa décision. Il peut le faire ou ne pas le faire. Il n'est jamais obligé de le faire. Lorsque quelqu'un est souverain, il est libre de faire ce qu'il veut, comme il le veut. Mais savoir que Dieu est souverain devrait tous nous rassurer. Pourquoi ? Parce que notre souverain est notre Père. Celui qui est souverain est notre Père, et donc ce qu'il fera est certainement ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous, même si ce qu'il fait ne correspond pas forcément à ce que nous aurions pensé, désiré ou attendu. Cependant, je sais que mon Père qui est dans le ciel agira toujours pour mon bonheur et non pas pour mon malheur. Je me souviens toujours du papa Jean quand il me corrigeait. Quand il me prenait, sans assimiler la maladie à la correction maintenant, mais simplement pour vous donner une image, comme quoi on peut faire quelque chose auquel l'autre n'adhère pas forcément. Il me prenait sur les genoux. Il descendait les dernières protections que j'avais. Et là d'abord il me disait, tu sais Samuel, ça me fait vraiment mal au cœur de le faire. Et moi je me disais, mais alors le fais pas. Moi, je voudrais pas te faire mal au cœur. Cependant, pour ton bien, il est nécessaire que je le fasse. Ra, 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 ra. Qui a crié Amen ? Certains pensent même qu'il lui en a pas donné assez. C'est pas vrai ? Je lis dans vos pensées. André Strich, je te vois faire comme ça. Cependant, aujourd'hui, je dois admettre que c'était pour mon bien. Il y a des événements dans nos vies qui nous arrivent, nous ne les entrevoyons pas comme étant pour notre bien lorsqu'elles nous arrivent, mais dans la finalité, et pour certaines, dans l'éternité, nous dirons tous merci d'avoir agi ainsi. Jésus lui-même va être celui qui nous montre l'exemple de l'acceptation pleine et parfaite de la souveraineté de Dieu. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémané, voilà ce qu'il est dit. Matthieu 26, verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et voilà le point d'orgue. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, ta parole est claire, les promesses sont claires, et tu nous dis d'agir de manière claire en priant pour les malades. Mais après que nous ayons fait toutes ces choses avec foi, la finalité t'appartient. Nous savons que tu es fidèle, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Lorsque nous prions le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une génération d'hommes et de femmes qui, quand Dieu n'agit pas comme il le pense, se rebelle contre lui, se révolte contre lui. Parlez avec les gens autour de vous dans la société et vous verrez ce qu'ils vous disent. Lorsqu'il arrive un drame ou un malheur, automatiquement ils l'attribuent à Dieu. Et deuxièmement, ils diront, si Dieu existait, ces choses-là n'arriveraient pas. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas parce que certaines choses arrivent que Dieu n'existe pas. C'est pas parce qu'elles arrivent qu'elles sont forcément imputables à Dieu non plus. Souvent, elles sont notre propre fait. Mais j'aimerais nous rappeler ce matin que nous sommes humains et Dieu est Dieu. Ce n'est pas nous qui le commandons, mais c'est lui qui doit nous commander. La foi n'est pas ma capacité d'imposer ma volonté à Dieu. La foi, c'est ma capacité de me soumettre à la volonté de Dieu. Et vous n'êtes plus du tout dans les mêmes schémas. Sa volonté peut être, par exemple, de vous faire faire quelque chose de surprenant, comme tourner autour des murailles de Jéricho pour qu'elle tombe. C'est surprenant, mais c'est sa volonté. Et si vous lui obéissez, les choses s'accomplissent. Sa volonté peut parfois être autre. Dans sa souveraineté, il peut agir autrement que ce que nous attendons. Regardez, par exemple, vous avez, eh bien, cette phrase surprenante au sujet d'Élisée. Dans sa souveraineté, Dieu peut même nous reprendre par la maladie. Élisée, homme de miracle, de grands miracles se font par lui. Écoutez ce qu'il est dit. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. De manière surprenante, Dieu ne l'a pas guéri. Dieu l'a repris par la maladie. C'est une notion que nous avons beaucoup de mal à intégrer. Élisée mourut de la maladie dont il était atteint. N'était-il pas un homme de Dieu ? Pour preuve, lorsque ses ossements seront dans une caverne et qu'on jettera à l'intérieur un homme qui était mort, au contact des eaux, l'homme ressuscitera. Mais Dieu avait décidé de reprendre Élisée. Ce matin, nous parlions ensemble là derrière, et je disais, finalement, ce qui est important pour moi, ce n'est pas de vivre vieux, ce qui est important pour moi, c'est de vivre dans la volonté de Dieu, et le jour où il veut me reprendre, qu'il me reprenne. Lorsque vous lisez les Écritures, Jésus-Christ n'est pas mort à 95 ans, ou à 130 ans, ou à 150 ans, il est parti à 33 ans et demi. Dieu reste souverain sans que pour autant cela note quoi que ce soit à la guérison divine. Regardez un autre exemple. Que dit et fait Jésus lorsqu'il arrive à Nazareth où les gens l'interpellent? Il leur dit quelque chose de surprenant, écoutez bien. Et ça relève encore une fois le fait que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Il leur dit dans Luc 4, « De plus, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi, et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman le Syrien. » Dieu agit en tant que Dieu. À quelque part, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il ne nous est redevable de rien. Tout ce qu'il fait, il le fait par grâce. Il honore la foi de ceux qui l'honorent, et c'est lui qui nous appelle à prier pour les malades, et c'est lui qui nous dit de le croire. Cependant, c'est lui qui règne toujours. Je vais plus loin avec vous. Lorsque Jésus arrive à la piscine de Bethesda, la Bible nous dit qu'il y avait là de nombreux malades. Il est dit, or, à Jérusalem, dans Jean 5, près de la porte de Brébis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, c'était un jour de sabbat. Cependant, c'est le seul que Jésus a guéri à la piscine de Bethesda. Vous et moi, nous aurions dit, mais Seigneur, ne quitte pas la piscine avant que tout le monde ait quitté l'endroit. Il a guéri celui-là. Le plus gravement atteint, qui était là depuis le plus longtemps. Du temps de Jean-Baptiste, Jésus était présent, il était là en Israël. La Bible nous dit que Jean le Baptiste est arrêté par Hérode, vous vous souvenez de cela? Il est mis en prison. Et voilà que la fille de la femme d'Hérode, à cause de sa mère, va demander la tête de Jean le Baptiste. Moi, je me suis posé souvent la question, mais Jésus, tu étais là, tu étais même dans le pays, tu étais présent physiquement. Pourquoi n'es-tu pas allé là-bas, à la prison d'Hérode? Pourquoi n'as-tu pas surnaturellement libéré Jean le Baptiste qui était, un, ton précurseur, celui qui ouvrait le chemin, mais deux, également un membre de ta famille, ton cousin, le fils d'Élisabeth? Il n'en a rien fait. Jean le Baptiste fut décapité et pris dans le ciel. Mon frère, ma sœur, aborder la guérison divine, aborder la vie en un mot chrétienne, sans se rappeler de la souveraineté de Dieu, c'est risquer de s'enfermer dans une logique dans laquelle tôt ou tard vous serez déçu et amer. Votre foi même risque d'être ébranlée. Dieu est un père, et si Dieu a décidé de reprendre Jean-Baptiste, c'était son heure. Écoutez, si le Seigneur décidait de me reprendre demain parce que pour lui c'est mon heure, je ne peux quand même pas mourir demain de vieillesse. Vous me regardez comme ça? Demain, je ne peux pas mourir de vieillesse. Donc s'il décidait de me reprendre, c'est par un autre moyen. Mais ce que je vous demanderais, s'il me reprend, ne me pleurez pas, parce que j'aurai atteint l'objectif que je veux atteindre, être près de lui. Être près de lui. Frères et sœurs, je suis heureux de vivre. Je suis parfaitement heureux de vivre. Je suis heureux d'avoir une famille, je suis heureux d'avoir des enfants. Mais plus que tout, je l'aime et je veux être un jour près de lui. Aujourd'hui, dans 10 ans, papa Jean, je crois qu'il va vivre jusqu'à 160 ans, c'est ça? Non? On n'en sait rien. L'essentiel, c'est que nous nous retrouvions là-haut. Amen. Je continue avec vous. Lorsque Job est éprouvé, il dira une phrase qui inclut parfaitement la souveraineté de Dieu. Il dira... Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, il faut continuer de remercier le Seigneur. Le Seigneur a donné, quand il a donné et quand il donne, est-ce qu'on ne se réjouit pas tous? Quand il reprend, Job dit, il faut continuer à le remercier, même quand c'est difficile. La souveraineté de Dieu ne va pas nous conduire à l'abdication, ni à la passivité, ni au fatalisme. Vous savez, certains disent, de toute façon, ça ne vaut pas la peine de prier, à la fin, Dieu fait ce qu'il veut. Mais moi, je vais vous dire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que nous prions pour les malades, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Ça, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que nous croyons qu'il est capable de guérir aujourd'hui encore, et on en a la preuve parmi nous, et c'est des centaines de fois que j'ai vu le Seigneur à l'œuvre. Donc je sais qu'il guérit. Mais si un jour il devait agir autrement que ce que je lui ai demandé, je continuerai à le remercier. Lorsque vous prenez les Écritures, la parole nous apprend à prier pour les malades. La parole nous montre l'exemple de la prière pour les malades. Et dans la quatrième partie que nous traiterons de l'imposition des mains aux malades. Pourquoi l'imposition des mains? Qu'est-ce qui se passe au moment de l'imposition des mains? Nous traiterons l'onction d'huile. Nous parlerons d'autres moyens que Dieu utilise pour guérir. Cependant, aujourd'hui, j'aimais vous rappeler simplement que quand nous faisons ce que la parole de Dieu dit, par-dessus tout, il y a toujours, en dernier lieu, sa volonté. Toujours. Ne l'excluez pas, ne l'excluez pas. Lorsque vous prenez, du temps de l'apôtre Paul, l'état de l'Église, lorsque vous regardez ce qui se passait, il y avait des miracles extraordinaires qui se faisaient par les mains de Paul. Cependant, il y avait d'autres choses que j'aimerais maintenant relever courtement. Prendre conscience de cela doit nous amener à une approche biblique très équilibrée et très sage. Pourquoi ? D'abord par humilité. Par humilité parce que nous ne savons pas tout. Les choses cachées sont à l'Éternel, celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Deuxièmement, par compassion pour ceux qui passent dans la souffrance. Voyez par exemple Timothée. Que lui dit l'apôtre Paul ? Paul, qui, je le rappelle, faisait de grands miracles. À certains endroits, tous les malades étaient guéris. Que dit-il à Timothée ? C'est d'ailleurs le seul verset que les Français connaissent. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin. Ça, c'est le verset le plus populaire en France. Pour faciliter ta digestion, puisque tu es souvent malade. Pensez-vous un seul instant que Paul n'ait pas prié pour lui ? Moi, je crois de tout cœur que Paul a prié pour lui. Mais devant l'état de fait, il continue à avoir des problèmes. Il lui dit, en d'autres mots, de temps en temps, bois un petit coup, un verre, pour tes problèmes d'estomac. Il a recours à une méthode tout à fait. C'est peut-être Luc, le médecin, qui a dit à Paul, dit Timothée, il est de nouveau là-bas, indisposé, ou il est malade, il va pas bien, indisposé. Non, ça c'est pour les dames. Excusez-moi, je me suis trompé de mot. Enfin, pas bien. Vous avez compris, hein, barbouillé, tout ce que vous voudrez. Ça se dit aussi pour un homme. Je vais ressortir plus intelligent que je ne suis rentré ce matin. Qu'il prenne un peu de vin. Et lui donne un conseil tout à fait pratique. Lorsque vous regardez ce qu'il dit de Trophime, dans 2 Timothée 4, versets 19 et 20, il dit « Salut Priscille et Aquila, ainsi que la famille d'Onésiphore. » Pour les sœurs qui vont avoir un bébé, il y a beau prénom là, Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe. Écoutez bien. Et c'est Paul encore qui parle. Et j'ai laissé Trophime à Milet parce qu'il était malade. Bien-aimés ceux qui disent ces choses sont les mêmes que Dieu utilisait pour des miracles spectaculaires. Mais il y avait des situations diverses et différentes. Et à aucun moment, je vois l'apôtre Paul dire « Je comprends pas, j'en ai assez, j'ai prié pour lui, j'ai jeûné pour lui, ça n'a pas... » Non. Il dit « J'ai dû laisser Trophime malade à Miès, sûrement j'ai fait ma part. Mais si Dieu n'intervient pas, je dois admettre que Dieu a le dernier mot. » Je vais plus loin avec vous. Épaphrodite, par exemple, encore un beau prénom. Moi, par exemple, ce matin, le petit qui était là, Épaphrodite aux airs, c'est joli ça. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, mon compagnon de travail et de combat, lui que vous m'aviez envoyé pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Il désire beaucoup vous revoir tous et il est préoccupé parce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade en effet et bien près de mourir, mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui mais aussi de moi pour que je n'éprouve pas une tristesse encore plus grande. Frère, Épaphrodite était malade. L'apôtre Paul était même au stade où il s'attendait à voir Épaphrodite mourir. Et quand Épaphrodite est guéri, l'apôtre Paul avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance dit « Je bénis Dieu de ne pas m'avoir infligé épreuve sur épreuve ». Je le remercie de me l'avoir laissé, mais il le reconnaît comme une grâce et comme ayant été la seule souveraineté de Dieu. Il ne dit pas « Dieu me le devait ». Non, non, il bénit Dieu de lui avoir laissé son compagnon d'œuvre Épaphrodite, mais il était prêt aussi à le voir partir. Frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas dans quelle mesure nous avons, à quelque part, eh bien, inclus la notion de souveraineté de Dieu dans nos vies, mais il est nécessaire pour avoir une approche juste de la parole de Dieu, eh bien, de l'inclure à notre foi. Si ce matin nous abordons la parole avec humilité et une compassion sans cesse renouvelée pour ceux qui sont encore dans la souffrance, nous pourrons alors nous aider les uns les autres. Et le Seigneur agira d'autant plus. Quelqu'un disait, c'est une citation que je voudrais simplement vous lire, « Nous nous exhorterons à aimer ceux qui souffrent alors qu'ils sont parfois irrités par leur souffrance, fatigués et révoltés dans leur épreuve. Nous les entourerons, nous les aiderons, les visiterons et prierons pour eux et avec eux. Nous nous exhorterons à connaître la volonté de Dieu et nous nous méfierons de nos formules toutes faites et de nos recettes à la chaîne. » Puis-je répéter cela ? Et nous nous méfierons de nos formules toutes faites et de nos recettes à la chaîne. Nous nous exhorterons à demander selon la volonté révélée avec foi, persévérance jusqu'à l'exaucement. Le temps des miracles n'est pas passé, Dieu est fidèle, il a fait de nombreuses promesses et il les tient toutes. Nous nous exhorterons à accepter dans la reconnaissance et la soumission la délivrance préparée par le Seigneur, que celle-ci ait lieu ici-bas ou dans son royaume seulement. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que dans sa souveraineté, Dieu veut vous bénir, Dieu veut guérir. Mais s'il devait agir autrement, apprenons à vivre sa souveraineté en disant « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Maintenant, et je voudrais encore continuer quelques minutes, la guérison divine est un moyen que Dieu va employer dans sa souveraineté de différentes manières. Je clôt là le chapitre de la souveraineté. Je le clôt, il y aurait énormément à dire, il voit lui seul tout un message, ou plusieurs messages. Mais je voudrais ce matin vous rendre conscient que Dieu utilise la guérison divine à différentes fins, et nous le voyons dans sa parole. D'abord, et je l'avais déjà dit, son but, lorsqu'il guérit, c'est d'amener au salut. Dans l'évangélisation, nous voyons de nombreuses guérisons. Là, je vous dis, l'autre jour, quand on était en Italie, cette grand-mère qui venait d'être guérie instantanément, elle était heureuse. Elle allait de droite, de gauche, elle montrait à tout le monde comme elle pouvait marcher. En Suisse, la même chose. Lorsque j'étais en Serbie, Schwester Svetlana, comme Kurz. J'aime autant que quelqu'un d'autre le dise. Lorsque nous étions en Serbie lors des premières réunions, mais Dieu a agi puissamment, puissamment. Ben viva res wieder mit dem Mann, der Krebs hatte.
Während einer Evangelisation des ersten Mal in Serbien hatte Samuel 14 Weissagungen. Unter anderem für einen Mann, der einen Kehlkopfkrebs hatte.
Ich muss übersetzen. Lorsque nous étions ensemble en Serbie, il y avait eu beaucoup de paroles de connaissance et entre autres une parole de connaissance pour un homme qui avait un cancer de la gorge. Quel Kopf? Du larynx.
Er kam und eine Woche später sollten sie ihm den Kehlkopf entfernen.
Il est venu et il était prévu qu'il soit opéré une semaine après qu'on lui sorte le larynx.
Er nahm das Wort für sich, kam hinterher zum Gebet und als er in die Klinik nach Belgrad kam, fanden sie nur eine Narbe auf dem Kehlkopf. Sie haben nichts verstanden, die Ärzte.
Il est venu, c'était la première fois qu'il était là, il a donc entendu la parole de connaissance. Ensuite, il s'est approché, on lui a imposé les mains. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital à Belgrade, on n'a plus que retrouvé une cicatrice sur le larynx et plus de cancer.
Der Mann ist 70, jetzt nach über einem Jahr arbeitet er im Wald schwer und fällt Holz und ist für seine Familie wieder da. Und ich wollte noch sagen, die anderen 13 Weissagungen, jede Heilung wurde bestätigt. Eine Frau mit dem Knoten, ein Mann mit einem kaputten Knie, ein Mann mit einem Herzfehler. Es war jede Weissagung wurde als Heilung bestätigt aus Gnade.
Toutes les autres paroles de connaissance ont été constatées, les guérisons se sont faites et elles ont été vérifiées par la suite. Ça, c'est dans l'évangélisation. Lorsque nous étions en Italie la semaine dernière, ça m'arrive parfois, et ça ne se programme pas, frères et sœurs, ça ne se programme pas. Je priais avec les gens, les personnes arrivaient et je savais ce qu'elles avaient. Elles ne me parlaient pas, je savais ce qu'elles avaient. Le pasteur italien est resté à côté avec une personne qui me traduisait. Il écoutait ce qui était dit. À la sortie, il dit « J'ai rarement vécu ça ». Toutes les personnes ont reçu de la part de Dieu une parole qui leur était propre et que personne ne pouvait connaître. Ça, c'est dans l'évangélisation. Ça, c'est ce que Dieu fait. Mais pas seulement dans l'évangélisation, je crois qu'il veut le faire dans l'Église. Si l'Église est une Église qui évangélise, alors il se passe tout le temps quelque chose. Si l'Église n'est qu'un club de copains qui se retrouvent tous les dimanches pour se dire « Bonjour, bonjour, alléluia, alléluia, je t'aime » et qui repartent, rien ne se passera. Le Seigneur agit, regardez ce qu'il est dit. Puis il leur dit, et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et chers téléspectateurs, écoutez bien, parce que le Seigneur peut vous guérir maintenant en écoutant la parole. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu confirme pas ma parole, pas mes idées. Dieu confirme sa parole. Frères et sœurs, soyez conscients de cela. Dieu ne confirmera jamais rien d'autre que sa parole. Et lorsqu'il guérit, eh bien c'est pour amener les hommes à la connaissance de son nom et à la repentance. Voyez un peu plus loin ce qu'il est dit. Je ne vais pas lire tous les textes, mais Jésus les envoie en disant « Prêchez, dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Dans le livre des actes, dans les cellules, on a fait le livre des actes. On a demandé à ce que chacun lise et dise ce qui se passait au moment où il y avait une guérison, une intervention surnaturelle par le Saint-Esprit. L'une des constatations que nous avons faites et que vous avez certainement tous faites, vous qui êtes dans les cellules et qui avez suivi ce travail, c'est que régulièrement après les miracles, les gens se convertissaient. Regardez ce qu'il est dit par exemple dans Actes 9. Je n'ai pas dit que la guérison sauve, hein. Mais la guérison interpelle. Il est dit, Pierre, qui parcourait tout le pays, se rendit un jour chez les croyants qui vivaient à Lydda. Il y trouva un homme appelé Aîné, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi et fais ton lit. C'est comme ma femme, elle me dit la même chose, lève-toi et fais ton lit. C'est drôle, hein? Aussitôt, Aîné se leva. Il est comme moi. Aussitôt, j'obéis. Écoutez bien, c'est là que c'est intéressant. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas ce que vous voudriez? Tous les habitants de la plaine d'Alsace le virent et se convertirent. Tous les habitants du Sungo le virent et se convertirent. Tous les habitants de la vallée de Tann le virent et se convertirent. Tous les habitants de Mulhouse le virent et se... Est-ce que tu crois ça? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que tu devrais commencer à dire « Tous les habitants de mon village le verront et y croiront ». Ce qui veut dire en d'autres mots, Seigneur, je suis prêt à ce que tu m'utilises. Je suis prêt à prier, je suis prêt à faire ce que tu veux que je fasse, le reste appartient. Regardez, quant à la repentance, Jésus dit à Chorazin, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient assis dans le cendre et auraient changé de comportement. La guérison peut en même temps devenir un jugement. Il y a des guérisons, il y a des miracles, mais pour autant les gens ne se convertissent pas, ne se repentent pas. La Bible dit que cela devient un jugement. Mon frère, ma sœur, ce matin, voudrais-tu avoir l'autorité pour la guérison? Crois-tu pleinement au fait que Jésus guérit aujourd'hui encore. Le nourris-tu dans ton cœur? Et je parle avec beaucoup de respect pour ceux qui sont malades au milieu de nous. Dieu est souverain, mais en même temps, il veut agir. Et il agit. J'aimerais vous dire ce matin que cette autorité, nous l'avons reçue de la même manière. Acte 1, 8, mais vous recevrez puissance, le Saint-Esprit. Pour que vous parliez uniquement en langue? Sûrement pas. Mais vous recevrez puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comment étaient-ils témoins, eux? Uniquement par des discours? Non, par des actions. Ils prêchaient et agissaient. Et ce que les gens voyaient les amenait à une conviction. Mon frère, ma sœur, vous ne pouvez pas séparer le message de la pratique. Il vous est nécessaire de saisir cela dans votre cœur et de le vivre. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, par exemple. Paul dit, « Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit qui en faisait une démonstration convaincante. » C'est quoi avoir la puissance? Pensez que c'est avoir une sono à fond? Vous pensez que c'est crier? Parfois, je vois des gens qui prient pour les malades. Et ils crient, on dirait qu'il est sourd, le pauvre. Seigneur! J'ai vu des malades même s'effrayer. Ils avaient envie de dire, mais j'ai rien fait. Non, là, c'est pas dans le volume de votre voix qu'il y a la puissance. Si le volume était dans la voix, mais à la maison, ça marcherait impeccable. C'est pas vrai? Non, non, la puissance et l'autorité n'est pas dans le volume. Elle est ailleurs. Elle est totalement ailleurs. Regardez ce que Paul dit. Comment se traduisait la démonstration convaincante chez Paul? Il se rendit à la synagogue où il parlait avec assurance. Donc il évangélisait là de nouveau pendant 3 mois. Il y eut des discussions où il usait de persuasion, etc. Acte 19. Maintenant la fin, verset 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. C'était ça, sa démonstration de puissance et de force. C'était ça, l'évangile qu'ils annonçaient. Et c'est cet évangile, mon frère, ma sœur, que nous sommes appelés à annoncer. Et je termine en citant l'Épître aux Hébreux. Que nous est-il dit là? Comment échapperons-nous, dit l'Écriture, en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage, comment? Par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Comment est-ce qu'ils appuyaient leur témoignage? Par des signes, des miracles et des prodiges, ainsi que l'exercice des dons de l'Esprit distribués selon sa volonté. Mon frère, ma sœur, lorsque Jésus t'appelle à être son témoin, c'est pas quelqu'un qui raconte de belles histoires seulement de la Bible. C'est pas quelqu'un qui sait citer Jean 3,16, même si c'est très bien de citer Jean 3,16. C'est quelqu'un qui non seulement a un discours, mais qui a un discours accompagné de l'autorité de Christ. Et cette autorité, il nous l'a donnée. Il nous l'a donnée. Mais vous recevrez puissance, le Saint-Esprit. Et je crois que si nous témoignons, et je crois que si nous évangélisons plus que ce que nous le faisons, nous verrons également la gloire de Dieu accompagnée. Parce que Dieu se révèle vraiment particulièrement dans ces temps d'évangélisation. Je me souviens, en Afrique, je vous l'avais dit, c'était à Ouagadougou, chez mon frère Mamadou. Mamadou n'était pas avec, c'était d'autres églises qui avaient organisé une évangélisation sur la place publique. Chaque soir, la foule grandissait. Vous savez pourquoi elle grandissait? Pas parce qu'il y avait un Alsacien qui prêchait. Souvent, les gens me disent, oui, mais en Afrique, c'est plus simple. Il suffit que vous jouiez du tam-tam et ils viennent. Mais vous les prenez pourquoi? Franchement, vous croyez ça? En Afrique, on ne vient pas plus vous écouter qu'en France si vous n'avez rien à dire. S'il ne se passe pas quelque chose, Eh bien, mes amis et mes frères africains ont autre chose à faire que de venir écouter quelqu'un qui raconte des histoires. Mais ce qui se produisait, c'est que le Seigneur chaque soir guérissait. Et entre autres, nous avons eu une dame, alors seules les sœurs peuvent comprendre ce qu'elle vivait, elle ne pouvait quasiment plus marcher parce qu'elle avait l'utérus entre les jambes. Et vous savez, en Afrique, c'est comme mes frères roumains, c'est comme dans beaucoup de pays, si t'as l'argent, on t'opère, si t'as pas d'argent, tant pis. Mes frères me disaient, tu peux avoir une hémorragie et mourir simplement parce que t'as pas d'argent. C'est l'argent qui régit. T'as l'argent, on te soigne. T'as pas l'argent, ben on prend quelqu'un d'autre qui a de l'argent. Cette femme vient dans cet état-là. C'était terrible. Elle avait c'était pour elle un calvaire de marché. Elle avait ça depuis longtemps. Au moment où on invoque le nom de Jésus et la puissance du nom de Jésus, on ne lui a même pas imposé les mains. Au moment où on invoque la puissance du nom de Jésus, elle est visitée à sa place et ses organes sont remontés à leur place. Elle témoignait, c'est sûr qu'elle a ramené du monde. Et c'est sûr que ceux qui la voyaient marcher avant et qui la connaissaient, eux-mêmes sont venus. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours le même. Il est toujours le même. Dis à ton voisin, Jésus est toujours le même. Jésus est toujours le même. Et à vous tous qui êtes dans la souffrance, qui passez par l'épreuve, j'aimerais vous dire, Jésus reste le même. Et quand même il aurait repris quelqu'un que vous aimez, il reste le même. Il continue à vous aimer et nous nous retrouverons. Je souhaite qu'une chose, c'est que vous puissiez rentrer à la maison et dire, Seigneur, si ce que le pasteur dit est vrai, alors je veux le vivre. Mais je ne veux pas vivre une vie chrétienne à trois sous. Je veux vivre ta gloire. Jamais dans la Bible, vous ne voyez que c'est réservé à une élite. Jamais. Il n'est jamais dit que c'était réservé uniquement à une certaine caste de chrétiens ou à une certaine catégorie de gens très spirituels. Non, cette promesse est pour chacun d'entre nous. Parce que le Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous. Parce que l'ordre de mission a été donné à chacun d'entre nous. Allez par tout le monde.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.